الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الباب السادس في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة وفيه مسائل. Donc le sixième chapitre, le fait d'essuyer les chaussons et le turban et les al-jabira, c'est-à-dire les pansements, les plâtres, etc. Donc ça sera le chapitre d'aujourd'hui. Il dit Al-Khuf huwa ma yulbasu ala al-rijli min jiddin wa nahwihi wa jam'uhu khifaf wa yulhaqu bil khuffayn kullama yulbasu ala al-rijlayn min sufin wa nahwihi. Donc dit Al-Khuf, quand on dit l'essuiement des khuf, Al-Khuf c'est tout ce qui se met sur le pied et qui est fait de peau. Et le pluriel de khuf c'est khifaf, c'est-à-dire qui est fait de cuir et y est assimilé tout ce qui est fait de laine. المسألة الأولى حكم المسح على الخفين ودليله. Donc la première question c'est le jugement ou le statut du fait d'essuyer le خوف et sa preuve. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. Donc le fait d'essuyer les خوف c'est légiféré et permis selon le consensus des gens de la Sunna et du groupe. هو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم وقد دل على جوازه السنة والإجماع. Donc en fait c'est une rukhsa, c'est-à-dire rukhsa c'est ce qui est plus léger dans le statut que la règle habituelle. Donc on va dire c'est comme une sorte de permission d'Allah Azza wa Jal qui sert à alléger la tâche à ses serviteurs et pour enlever d'eux la difficulté. Et donc elle est prouvée par la sunna et par le consensus des musulmans. أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. Donc en ce qui concerne la sunna, les hadiths ils sont très nombreux pour montrer que le prophète صلى الله عليه وسلم a essuyé sur ses chaussons, le khuf entre guillemets les chaussons, et il a ordonné aussi de le faire et il a permis de le faire. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي في المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بقوله ليس في قلبي أن شك في جوازه. Donc l'imam Ahmed رحمه الله disait il n'y a rien dans mon cœur à propos du fait d'essuyer le masah. Il n'y a rien dans mon cœur, c'est-à-dire je n'ai aucun doute à ce sujet. Il y a à ce sujet 40 hadiths du prophète. Ça c'est la parole de l'imam Ahmed صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. الحسن البصري donc رحمه الله a dit 70 parmi les compagnons du prophète m'ont raconté que le prophète a essuyé ses خوف. ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. Donc parmi eux il y a le hadith de Jarir qui a dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam uriner, ensuite il a fait ses ablutions et a essuyé ses khouf. Ça c'est dans Sahih Muslim. وقال الأعمش عن إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني آية الوضوء. الأعمش donc un tabi'i, il disait selon Ibrahim, c'est-à-dire Ibrahim al-Nakhai, un tabi'i, il disait ils aimaient ce hadith, c'est-à-dire la génération des tabi'in. Parmi les rapporteurs du hadith, ils disaient ils aimaient ce hadith parce que Jarir s'est converti après la révélation de Surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah qui est la surat dans laquelle il y a le verset qui parle des ablutions. Donc c'est-à-dire que ça repousse l'idée qu'on pourra avoir de dire que le masah, le fait d'essuyer les chaussons, c'était au début de l'islam et que Allah il a révélé le verset d'Al-Ma'idah qui montre qu'on est obligé de les laver et qu'il ne suffit pas de les essuyer. Mais comme le hadith de Jarir il dit il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire, il ne le tient pas de quelqu'un, et Jarir il s'est converti après que le verset sur le dos descende dans le Ma'ida, ce qui prouve que le verset d'Al Ma'ida qui dit de laver les pieds, ça ne contredit pas non plus la sunna qui dit d'essuyer les chaussons et c'est-à-dire les entre guillemets les chaussettes ou les chaussons al khuf. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها. Et les ulama d'Ahl Sunna ils sont tous d'accord, donc parmi les ulama des madhahib, sur le fait qu'il est légiféré d'essuyer le khouf en voyage et même en dehors du voyage, pour un besoin ou même sans besoin. Si ce n'est, c'est possible aussi, c'est-à-dire vous pouvez trouver dans certains livres, un khilaf de l'imam Malik, rahimahullah, en ce qui concerne celui qui est fil hadar, c'est-à-dire qui n'est pas en voyage. Il y a des versions de l'imam Malik qui disent que c'est légiféré que pour celui qui est en voyage. Donc ça, il faut le savoir, au cas où vous trouvez quelqu'un qui vous contredit, c'est peut-être parce qu'il suit cette riwaya de l'imam Malik, rahimahullah. Wakadhalika, hein. Bah, c'est en tout cas à ma connaissance, parce que je ne suis pas approfondi dans le madhhab maliki, à ma connaissance c'est une riwaya, parce que des fois les imams du fiqh comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ou Abu Hanifa, tu lis un avis d'eux, mais c'est une riwaya, c'est-à-dire un élève de l'imam, par exemple Ahmed, il transmet l'imam Ahmed a dit sur telle chose halal, et un autre il va transmettre makruh, donc il y a deux avis. Par exemple l'imam Ahmed il dit un avis et 10 ans après il revient parce qu'il par rapport à ce qu'il a acquis comme hadith ou quoi, ou ce qu'il a acquis comme science, ou alors il est revenu sur son opinion, il dit autre chose. Donc un des élèves, il va ramener quelque chose, et son autre élève, il va ramener autre chose. On appelle ça les riwayat. Et des fois, dans les madhahib, tu as plusieurs riwayat. Surtout le madhab, celui où il y en a le plus, c'est-à-dire des riwayat différentes, c'est le madhab de l'imam Ahmed. Des fois, l'imam Ahmed, dans une question, tu as des ulama, ils ont dit haram, d'autres ils ont dit makruh, d'autres ils ont dit halal. Et l'imam Ahmed, t'as une riwaya qui dit ça, ça et ça. Tu vois? Chaque opinion, t'as l'imam Ahmed dedans. Après, ce qu'il faut, c'est, il faut faire ce qu'on appelle le tarjih. C'est-à-dire savoir quelle est la riwaya que vraiment on peut assimiler à l'imam, attribuer à l'imam. Comment ils vont faire ça? Bah, par exemple, ils vont voir par rapport à la chronologie. Et savoir par rapport à qui est l'élève qui a ramené cette riwaya, quelle est la dernière qu'il a dite. Donc surtout dans le madhab de l'imam Ahmed, il y a tout ce travail de savoir quelle est la vraie riwaya qu'on peut vraiment attribuer à l'imam Ahmed parce que c'est la dernière qu'il a dite. Et donc après on peut seulement définir vraiment le madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah. Ensuite il dit « وَكَذَلِكَ يَجُوزُ مَسْحُ عَلَى الْجَوَارِبِ » Donc il dit « Il est aussi légiféré de faire le mash sur le dessuyer al-jawarib. وَهِيَ مَا يُلْبَسُ عَلَى الرِّجْلِ مِنْ غَيْرِ الْجِدِّ كَالْخِرَقِ وَنَحْوِهَا » Il dit, c'est tout ce qui se met sur le pied, même si ce n'est fait pas partie, même si c'est pas fait avec du cuir, comme les chaussettes. Puisqu'elles sont comme le khouf, dans le fait que le pied en a besoin pour être couvert. Donc la cause qui permet d'essuyer le khouf, elle est aussi présente dans la chaussette. Et maintenant le port des chaussettes il est plus répandu que le port du khouf, donc on peut essuyer dessus si c'est une chaussette qui cache bien tout le pied, c'est à dire qui cache tout le pied qui est censé être lavé dans les ablutions. Ça ils l'ont pas mentionné ici, mais il y a des preuves, c'est à dire c'est pas seulement un qiyas, mais en fait ça a été rapporté de 9 des compagnons du prophète radiallahu anhum, avec des chaînes de transmission authentiques, et c'est pour ça que notamment l'imam Ahmed il voyait qu'il est légiféré et permis d'essuyer autre que le khouf, c'est-à-dire même si c'est simplement une chaussette. Al-mas'ala thaniya shurut al-mas'h 'ala al-khuffayn wa ma yaqum maqamahuma. La deuxième question est de savoir les conditions avec lesquelles on a le droit d'essuyer sur les khouf. Wa hadhihi shurut hiya awwalan labsuhuma 'ala tahara lima rawa al-Mughira qala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. Donc la première c'est que tu les as mis en état de pureté, c'est-à-dire au moment où tu as mis tes chaussettes ou tes choufs, tu étais déjà en état d'ablution, mais en état d'ablution en ayant lavé tes pieds. Et la preuve à ça, c'est le hadith de Al-Mughira qui raconte qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage, et il s'est baissé pour enlever les khoufs du prophète, parce qu'il voulait faire ses ablutions, et le prophète il lui a dit laisse-les, puisque je les ai mis en état de pureté. C'est-à-dire, quand il a mis ses khoufs, il avait ses ablutions. Ce hadith il est dans le Bukhari et dans le Muslim. Thaniyan, satruhuma li mahalli al-fard, ay al-mafroudu ghasluhu min al-rijl, falaw dhahara min mahalli al-fard shay. Ensuite aussi que la chaussette cache l'endroit qu'il est obligatoire de laver. Donc si quelque chose apparaît on ne peut pas essuyer. C'est-à-dire, puisqu'à la base, c'est le pied tout entier qui doit être lavé, il faut absolument que la chaussette qui va remplacer, entre guillemets, le pied, et qu'on va essuyer, elle cache tout le pied, c'est-à-dire aussi la cheville, qui est censée être lavée dans les ablutions. Après, il y a la question de savoir, par exemple, si tu as un trou, ou par exemple, tu peux avoir accroché ta chaussette, et il y a un petit peu du pied qui apparaît. Ça, sur ça, les ulama, ils divergent. C'est-à-dire, il y en a, ils disent non. S'il y a quelque chose du pied qui apparaît, il ne faut pas faire le masah. Et d'autres, comme il dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ils disent de façon logique, les sahaba, c'est des gens qui vivaient dans une terre rude. C'est-à-dire, si on voit par exemple le désert en Arabie Saoudite, ou la terre de Médine, c'est caillouteux. C'est que des cailloux par terre. C'est très rude. Donc forcément, leur khouf, c'est des khouf dans lesquels il y avait des trous et qui étaient... il devait se déchirer, etc. Et le prophète, il n'a pas mis comme condition que le khouf, il n'est pas de, par exemple, d'un petit trou ou une égratignure. Donc si c'est ce genre de trou, ça c'est pas un mal. Mais si déjà le khouf, il est comme ça, par exemple, c'était une mode, par exemple, ils font une chaussette sans les orteils, ou alors maintenant ils le font, ils font les soquettes, c'est-à-dire ça cache pas les chevilles, ça on peut pas essuyer dessus, parce que ça recouvre pas tout le pied. ثالثا إباحتهما فلا يجوز المسح على المخصوب والمسروق ولا الحرير للرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. Troisièmement, le fait que la chaussette elle doit être licite, c'est-à-dire elle ne doit pas être volée, ou alors, c'est-à-dire on l'a prise de force à quelqu'un, ou alors faite en soie, parce que le fait de les porter, ce genre de chaussettes qui serait volée ou qui serait en soie, c'est un péché, et donc comme c'est un péché, ça ne laisse pas la permission d'essuyer dessus. Rabi'an, taharatu aynihima, fala yasihu al-mashu ala al-najis, kal muttakhadh min jaldi al-himar. La quatrième, c'est que, bien sûr, le khouf ou la chaussette, elle soit elle-même pure. Donc elle ne soit pas prise, par exemple, de la peau d'un âne, par exemple, puisque l'âne domestique, c'est un animal impur. خامسا أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا وهي للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. Et la cinquième, c'est qu'ils soient encore dans la période de l'essuyage qui a été délimitée dans la religion, qui est pour celui qui est chez lui un jour et une nuit, donc c'est-à-dire tu peux essuyer pendant un jour et une nuit, et pour celui qui est en voyage, trois jours et trois nuits. Ça on va le voir après, il va en mettre un chapitre exprès pour ça. هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لا بد من مراعاتها عند إرادة المسح. Donc il dit voici cinq conditions que les ulama ont déduites des textes et aussi des règles générales de la religion qu'il faut respecter pour pouvoir essuyer sur la chaussette. Notamment une où il y a une divergence. Donc j'ai cité par exemple par rapport au fait qu'il doit couvrir tout le pied, que s'il y a un petit trou à cause de l'usure et tout ça, c'est pas... Certains ulama comme Ibn Taymiyyah, il dit ça c'est rien. Notamment il y a une divergence sur le sujet de est-ce qu'elle est licite. Donc il y en a qui disent même si la chaussette tu l'as volée ou elle est en soie, tu peux essuyer dessus. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a demandé d'essuyer sur la chaussette, le fait qu'elle soit volée ça c'est un péché qui n'a rien à voir, c'est autre chose. C'est pour savoir, c'est-à-dire que il y a une divergence dessus, et il y a aussi une divergence. Donc, tant que je connais les divergences, je vous l'ai dit, puisque ça fait partie d'entre guillemets de. C'est dans le fait qu'il faut connaître où est-ce qu'il y a des divergences pour pas blâmer les gens n'importe comment. Il y a aussi une divergence par rapport à ce qu'on appelle le mudda, c'est-à-dire la période. Il y a des ulama, ils disent tu peux essuyer ton khouf même pendant un mois complet si tu le laisses, que tu sois chez toi ou en voyage. Tu peux laisser ton khouf. Et leur preuve, c'est quoi? Elle est authentique aussi. C'est un hadith où Omar, radiallahu anhu, il a vu un des compagnons qui revenait d'un voyage. Et il l'a vu faire son masah. Et il lui a dit, depuis quand tu as tes khouf? Et il lui a dit, depuis une semaine. Et il lui a dit, tu as fait la sunna. Donc comment certains ulama, ils regroupent ces deux textes? La majorité des ulama, ils ont pris les hadiths qui sont authentiques, qui parle de 3 jours et 3 nuits pour un voyageur, et un jour et une nuit pour celui qui est chez lui. Puisque les hadiths, ils sont très nombreux, et ils sont dans le Bukhari et Muslim. Donc ils sont, quand des hadiths ils se contredisent, les hadiths qui sont plus authentiques, on les prend, et plus nombreux. Et ça c'est un seul hadith, et il n'a pas l'authenticité des hadiths qui sont dans le Bukhari et Muslim. Mais certains ulama, comme Ibn Taymiyyah rahimahullah, ils ont fait un effort, c'est-à-dire un ijtihad, pour essayer de comprendre et d'allier ces deux hadiths, sans dire que l'un est vrai, l'autre est faux. Il dit, en fait, c'est comme le fait d'essuyer le plâtre, essuyer un plâtre ou essuyer un pansement, ça, il n'y a pas de durée dedans. Tant que tu as ta blessure, par exemple, tant que tu as ton bras cassé, tu as ton plâtre dessus, tu peux essuyer. Donc il dit, la chaussette à la base, on a 3 jours et 3 nuits si on est voyageur. Mais si par exemple un voyageur il met sa chaussette 3 jours et 3 nuits, et qu'au bout des 3 jours et 3 nuits, il est obligé de l'enlever donc pour faire ses ablutions parce qu'il a passé la durée, mais s'il va faire ses ablutions, ça va lui causer un mal. Par exemple, il fait vraiment trop froid. Donc il pourrait faire ses ablutions et en essuyant son pied, ça serait pas une difficulté au point qu'il fasse tayammum. Donc alors à ce moment-là, il fait ce qui est entre les deux. En fait, c'est sa chaussette, elle est plus considérée comme la chaussette. Elle est considérée comme le pansement ou le plâtre. Que si tu l'enlèves, il va t'arriver un mal. Et donc, il peut essuyer dessus. Ça, c'est bon. C'est un effort d'interprétation pour essayer de relier les textes. Mais sinon, la grande majorité, ils disent que c'est 3 jours et 3 nuits pour le voyageur, 1 jour et 1 nuit pour celui qui est chez lui. Mais c'est bon de le savoir, parce que vous pouvez tomber dans des livres sur le hadith de Omar, et après vous vous demandez. C'est parce que Omar, ça, c'est pas son opinion, puisqu'il lui a bien dit Asabta Sunna, tu as fait la Sunna. Donc il a relié ça directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit Al-Mas'ala Thalitha, Kayfiyatul Mas'hi wa Sifatu. La troisième question, c'est comment on essuie sur les chaussettes. Donc il dit Al-Mahallul Mashru'u Mas'huhu. ظاهر الخف والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. Donc il dit ce qu'il faut essuyer, c'est le côté apparent, c'est-à-dire le dessus du khouf, c'est-à-dire ici quoi, le dessus du pied, pas le dessous du pied. Et c'est-à-dire en fait ce qui veut dire ici, la sunna elle n'a pas délimité, c'est-à-dire essuyer la moitié, essuyer tout, ce qui s'appelle essuyer, si tu l'as fait, ça veut dire si tu as fait un mouvement, ce mouvement on peut l'appeler essuyer, le mas en arabe, eh ben, t'as fait le mas. Puisque comme la religion elle n'a pas délimité précisément, eh ben, si ce que t'as fait ça s'appelle mas, ça suffit. Donc à partir de là, bien sûr, ici il le précise pas, mais c'est-à-dire on essaye toujours de rajouter un petit peu des petites précisions, c'est que les ulama après ils divergent. Il y en a qui disent il faut que ce soit au minimum avec un doigt, il y en a qui disent avec plus, il y en a avec la main, il y en a qui disent il faut que ce soit tout. C'est-à-dire tu pars du gros orteil jusqu'à ce que tu montes à ta cheville, etc. Ça c'est sûr que c'est le plus sûr. Comme ça au moins tu es sûr de ne pas te tromper. Et d'autres ils sont plus légers. Ils disent même si tu as fait juste comme ça, donc tu as essuyé, tu rentres dans le hadith. En tout cas ce qui est voulu, et ce qu'on comprend ici, c'est que, et comme c'est le cas de l'essuyage en général dans la religion, c'est quelque chose d'alléger. Que ce soit l'essuyage de la tête, l'essuyage du pied, tout ce qui est le masque dans les ablutions, dans la sunna, on voit de façon générale que c'est quelque chose d'allégé. C'est pas quelque chose qui est vraiment strict. Donc de toute façon, si tu essuies même une partie du khouf, inshallah, c'est bon. Il dit wa kayfiyatul masḥ an yamsaha akthara a'la al-khuf li hadith al-Mughira ibn Shu'ba alladhi bayyana fihi wasfa masḥ rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ala khufihi fi al-wudu fa qala رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. Donc il dit ici, c'est que le comment tu essuies, c'est que tu essuies la majorité, c'est-à-dire presque tout, la chaussette, le haut de la chaussette. Akthar, c'est-à-dire plus que la moitié. Puisque dans le hadith de Al-Mughira, le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit j'ai vu le prophète essuyer ses chaussettes, enfin Al-Khuf plutôt. Khuf c'est ce qui est en cuir. Et il a dit sur l'aspect, sur le haut de ses chaussettes. Ça c'est dans la version du hadith d'Al-Mughira qui est dans Sunan al-Tirmidhi et c'est authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. Ensuite il dit wala yujzi'u mas'hu asfalihi wa 'iqabihi wala yasun. Il dit il n'est pas valable d'essuyer le dessous du khouf, c'est-à-dire ici, et le talon, et ce n'est pas une sunna. Li qawli 'Ali radiyallahu anhu law kana ad-din bir-ra'yi la kana asfal al-khuff awla bin mas'h min a'lahu wa qad ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala dhahiri khaffihi. ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة. Il dit donc, puisque l'argument c'est le hadith de Ali radiallahu anhu, qui a dit, si la religion dépendait de la raison, c'est-à-dire de l'opinion, le bas, c'est-à-dire en dessous du pied quoi, de la chaussette aurait été plus à même d'être essuyé que le haut de la chaussette, mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer le haut des chaussettes. C'est-à-dire, si il dit, si on réfléchissait avec notre simple raison, on aurait essuyé le dessous, parce que c'est le dessous qui traîne par terre et qui peut amener de la poussière et des saletés. Mais j'ai vu le prophète essuyer le dessus et non pas le dessous. Donc ça c'est un hadith qui est dans les Sunan d'Abi Daoud et les Sunan al-Kubra d'Al-Bayhaqi. Et ici, dans la marge, il dit qu'il a été authentifié par Al-Hafiz, Ibn Hajar, Al-Asqalani. Et ça aussi, c'est-à-dire ça aussi, il faut savoir aussi que c'est un sujet à divergence, puisqu'il y a des hadiths donc, qui sont à ma connaissance faibles dans leur authenticité, qui ne sont pas valables, qui disent le haut et le bas. Mais ce n'est pas des hadiths qui sont fiables dans la chaîne de transmission. Et pour peut-être certains ulama, ils les ont acceptés, ou ils connaissaient que ces hadiths, et donc ils ont dit qu'il faut essuyer le haut et le bas. Donc ça existe, je veux dire, dans les opinions des ulama, certains qui disent d'essuyer aussi le bas. إذ المسألة الرابعة مدته ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة. Donc la durée du fait d'essuyer sur le khuf pour celui qui est chez lui, al-muqim, ou pour celui dont le voyage ne lui permet pas de rétrécir ses prières. C'est-à-dire en vérité, c'est pas un voyage légiféré, un voyage c'est-à-dire considéré dans la religion. Il est parti à une distance mais qui n'est pas considéré comme un voyage. C'est un jour et une nuit. وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها لحديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. Et pour le voyageur c'est 3 jours et 3 nuits, conformément au hadith de Ali رضي الله عنه qui a dit le prophète صلى الله عليه وسلم a légiféré 3 jours et 3 nuits pour le voyageur et 1 jour et 1 nuit pour celui qui est chez lui. Ça c'est dans Sahih Muslim. Il y a encore d'autres hadiths. C'est-à-dire c'est pas le seul hadith qui montre ça. Ensuite il dit al-mas'al al-khamisa mubtilatuhu. Donc après bien sûr il va parler de à partir de quand commence la durée. Ça il va en parler après. Là la 5e question c'est qu'est-ce qui annule le mas'h. Wa yubtilu al-mas'h ma ya'ti. أولا إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح. Il dit premièrement quand il y a quelque chose qui oblige le roussel, on ne peut plus essuyer sur les chaussettes. لحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ياليهن إلا من جنابه. Donc ça c'est un hadith qui est dans le Mousnad de l'imam Ahmed et dans certaines Sunan authentifiées par Sheikh Al-Albani, dans lequel Safwan ibn Assal radiallahu anhu il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on est en voyage il nous ordonnait de ne pas enlever nos chaussettes pendant 3 jours et 3 nuits sauf à cause de la janaba, c'est-à-dire s'il urine ou il a un gaz etc, il refait ses ablutions, il va essuyer ses chaussettes, mais si c'est une janaba qu'il a, c'est-à-dire ce qui oblige à faire le roussel, là il faut qu'il enlève ses roufs et qu'il fasse entre guillemets sa douche. ثانياً إذا ظهر بعض محل الفرض أي ظهور بعض القدم بطل المسح. Donc ça on l'a vu déjà, c'est ils disent quand apparaît un peu du pied, quand un peu du pied apparaît, donc le masah n'est pas permis. ثالثاً نزع الخفين يبطل المسح ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. Troisièmement le fait d'enlever les chaussettes ne permet plus de les essuyer ou d'enlever un des deux, selon la parole de la majorité des ulama. C'est-à-dire, admettons, tu as fait le masah et après tu enlèves ta chaussette. Si tu la remets, donc la dernière fois que tu avais fait tes ablutions, comment tu avais fait ? Tu n'avais pas lavé tes pieds. Tu avais essuyé avec tes chaussettes. Donc tu rentres pas dans le hadith où il dit j'ai mis mes pieds alors qu'ils étaient en état de pureté. Parce qu'en état de pureté, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que tu les avais lavés. Donc si t'as mis tes chaussettes, c'est-à-dire t'avais tes ablutions, t'as mis tes chaussettes, t'as perdu les ablutions, tu fais les ablutions et tu fais le masah. Après tu enlèves tes chaussettes, même si tu restes en état d'ablution, tu peux pas les remettre pour essuyer dessus. Parce que la dernière fois que t'as fait tes ablutions, t'as pas lavé tes pieds, t'as essuyé dessus. Donc ça, il dit bien, wa alaykoum salam, il dit bien selon l'opinion de la majorité des ulama, puisque d'autres ulama, ils disent non. Ils disent, quand le prophète a dit, j'ai mis mes pieds dans mes chaussettes, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils étaient purs, c'est-à-dire, j'avais fait les ablutions, j'étais en état de pureté, donc mes pieds aussi, ils rentraient dans l'état de pureté générale. Donc ils disent, même si t'as fait le masque, après si tu les remets, etc. Donc le plus sûr pour notre religion, c'est de suivre l'avis de la majorité des ulama, puisque leur preuve, elle est quand même forte. رابعا انقضاء مدة المسح مبطل له لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت. Quatrièmement, c'est que la durée du mash soit finie. Donc là, tu peux plus essuyer. T'es obligé d'enlever ton mash, ta chaussette et de refaire tes ablutions. Et tu peux pas dépasser cette durée que la religion elle a bien précisé, comme on l'a vu dans le hadith, c'est-à-dire un jour et une nuit ou trois jours et trois nuits. Ici il y a une petite question donc aussi qu'ils n'ont pas mentionné, c'est que faut savoir le fait d'enlever tes chaussettes. Par exemple, t'as fait le masque, t'as fait tes ablutions en faisant l'essuyage. Est-ce que si j'enlève mes chaussettes, je perds mes ablutions? Dans les hadiths, il n'y a rien qui montre ça. C'est-à-dire les hadiths, ils ont montré clairement qu'est-ce qui annule les ablutions. Uriner. Faire ses besoins, avoir un gaz, le madhi, les rapports sexuels, etc. Tout ça, ça annule les ablutions ou carrément ça entraîne à janaba. Et aucun hadith ne dit si tu enlèves tes chaussettes, tu perds tes ablutions. Alors que certains ulama ont dit ça, mais la preuve, comme on considère que la religion elle a tout montré, la sunna donc elle aurait dû montrer aussi, si c'était vrai, elle aurait montré que celui qui enlève ses chaussettes, il perd ses ablutions, comme elle a montré que celui qui urine, par exemple, il perd ses ablutions. Ensuite, il dit, al-mas'ala sadisa, la sixième question, ibtida umuddatil masah. Quand est-ce qu'elle commence la durée du masah, de l'essuyage? Il dit, wa tabtadi umuddatul masahi min al-hadathi ba'd al-labs. Il dit, ça commence, une fois que tu as mis tes chaussettes, ça commence quand tu vas perdre tes ablutions. Kaman tawadda'a li salati al-fajr, wa labisa al-khuffayn. وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ ثم توضأ قبل صلاة الظهر فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. Donc ils disent, par exemple, quelqu'un fait ses ablutions pour la prière du Fajr et il met ses chaussettes. Donc il a mis ses chaussettes quand? Au Fajr. Il dit ensuite, après le lever du soleil, il fait un hadath, c'est-à-dire par exemple il va aux toilettes. Donc il perd ses ablutions. Et il ne fait pas ses ablutions. Et il veut prier avant la prière du Dhuhr, il veut faire ses ablutions. Donc il va essuyer sur ses chaussettes. Jusqu'à quand il peut essuyer? Jusqu'au lever du soleil le lendemain. Donc ça commence quand il perd ses ablutions. Ensuite ils disent, وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر أي من المسح بعد الحدث. Et d'autres ulama, et c'est-à-dire, il n'y a pas de hadith précis sur ça. Ça, c'est des efforts des ulama. Et le deuxième avis qu'ils citent ici, Allahu A'lam, il est plus logique. Ils disent, ça commence la première fois qu'il va faire le masah. C'est-à-dire, par un autre exemple qu'on a cité, avant le dhuhr. C'est-à-dire, il a fait ses ablutions le matin, il a mis ses chaussettes. Donc, certains des ulama, ils disent, c'est à partir du moment où il met ses chaussettes. Là, ils n'ont pas cité cet avis-là. Après, il perd ses ablutions au lever du soleil. Donc, certains ulama, ils disent, c'est là que ça commence, les 24 heures. Et, donc, il fait pas ses ablutions. Et avant le dhuhr, il fait ses ablutions. Et pour la première fois qu'il a mis ses chaussettes, il fait l'essuyage. Des ulama, ils disent, c'est là que ça commence. Puisque la durée, elle est rattachée à quoi? Elle n'est pas rattachée à l'habillement, c'est-à-dire au fait de mettre ses chaussettes. Elle n'est pas rattachée au fait d'uriner ou de perdre ses ablutions, elle est rattachée au masah, c'est-à-dire à l'essuyage lui-même, puisqu'on dit bien la durée d'essuyage. Donc c'est logique de compter la durée d'essuyage à partir du la première fois que tu essuies. Donc si par exemple tu as mis tes chaussettes, tu regardes, quand, au moment où tu vas faire tes ablutions et tu vas essuyer pour la première fois, là, tu as 24 heures encore pour le faire. Al-mas'ala sabi'a, al-mas'u ala jabirati wa la imamati wa khumurin nisa. La septième question, c'est le fait d'essuyer les pansements, ou les plâtres, etc. Ou alors le turban, ou alors le al-khimar, pour les femmes. Donc il dit, al-jabira, hiya a'wadun wa nahuha, kal-jabsi mimma yurbatu ala al-kasri li yujbara wa yalta'im, wa yumsahu alayha, wa kathalika yumsahu ala al-lusuqi wa al-lafa'ifi, allati tuda'u ala al-juruh, فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة. Donc il dit al-jabira, c'est en fait par exemple ce qu'on met pour remettre un os quand il s'est cassé, et aussi on peut, ça rentre dedans tout ce qu'on met sur des blessures pour la recouvrir. Donc en fait par exemple les pansements, c'est-à-dire les gros pansements qu'on met sur une plaie ou sur une brûlure, ou alors un plâtre qu'on met sur un bras cassé, on a le droit d'essuyer dessus, à condition qu'il recouvre, non pas forcément que la blessure, mais qu'il soit de la taille seulement dont on en avait besoin. Parce que des fois la blessure elle peut faire par exemple 10 cm, mais on est obligé par exemple de bander tout le bras, sinon par exemple le bandage il va partir. Donc on a besoin de bander tout le bras. C'est pas forcément l'endroit, c'est le besoin. Donc la taille du pansement ou du plâtre, elle doit correspondre au besoin. Si on avait besoin d'un plâtre qui va jusque là et qu'on l'a mis jusque là, ben on peut essuyer dessus. C'est-à-dire, entre guillemets, il ne faut pas abuser dans le fait de couvrir la blessure ou l'os cassé plus qu'on en a besoin. Si c'est plus que ça, on ne peut plus essuyer. Normalement, il faudrait enlever ce qui est en plus pour pouvoir le laver. Donc ça, c'est comme je répète encore, comme les plâtres, les pansements, etc. فكل هذه الأشياء يمسح عليها دوك دي صلى دي ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر دي اس اي contrairement donc aux chaussettes on peut essuyer les plâtres et les pansements dans pour les ablutions mais aussi pour le janaba, c'est-à-dire que ce soit al-hadath, on a expliqué ce que ça veut dire, c'est-à-dire perdre ses ablutions, le petit hadath ou le grand hadath, c'est-à-dire même celui qui est en état de janaba, il devrait faire sa douche, il peut simplement essuyer, il se lave le reste du corps et il essuie son pansement ou son plâtre. وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها الى نزعها او شفاء ما تحتها. Et il n'y a pas de période limitée. Il l'essuie tant qu'il l'a, jusqu'à ce que ce qu'il a ça guérisse. S'il met son plâtre 2 semaines pour son bras il se répare, eh ben il essuie 2 semaines. Donc il ne doit pas faire directement le tayammum. Il fait ses ablutions autant qu'il peut. Par exemple, quelqu'un il a un plâtre de là à là, il ne passe pas directement au tayammum parce qu'il peut se laver et faire l'essuyage du plâtre. Ensuite, il dit والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. Il dit la preuve à ça, c'est que le fait d'essuyer les plâtres et les pansements, c'est-à-dire le jabira, c'est une contrainte. Et la contrainte, elle doit être évaluée à sa juste valeur. Et donc, il n'y a pas de différence en ce qui est d'essuyer le plâtre ou le pansement entre les deux hadiths, les ablutions ou la janaba. وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَ. Bon, là, il n'a pas cité la preuve, c'est-à-dire la preuve de la religion qui permet ça. Il y a un hadith. Un hadith qui dit, c'est-à-dire où un sahabi, vous avez tous déjà lu ce hadith, où un sahabi se plaignait de sa tête, il avait une blessure. Il a demandé à ses compagnons, est-ce que je peux y faire le masque, c'est-à-dire sur mon pansement. Ils ont dit non, il faut que tu te laves. Il s'est lavé, ça a fait une infection, il est mort. Et quand ils l'ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qataluhu, qatalahumullah. Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. C'est-à-dire, il les a blâmés. Et il a dit, il suffisait qu'il bande sa blessure, qu'il fasse le tayammum, et qu'il lave le reste de son corps, et simplement il essuie sur son pansement. Simplement, ce morceau du hadith, il n'est pas. En tout cas pour Cheikh Al-Albani rahimahullah, il n'est pas authentique. C'est-à-dire dans le hadith il a dit simplement yatayammam. Mais si on regarde donc ce qui nous aide, comme la sunna nous aide à comprendre le Coran, on comprend la sunna aussi avec quoi? Avec les paroles des sahaba. Et il y a beaucoup de fatawa des sahaba qui permettaient, et les sahaba ils le faisaient, ils essuyaient sur le jabira. Donc la preuve en vérité, elle ne vient pas des hadiths. Elle vient des athars des compagnons du prophète, radiallahu anhum, qui faisaient ce genre d'action. C'est-à-dire quand ils avaient une jabira. Donc jabira, encore je vous répète, ça peut être un pansement ou un plâtre. Ils faisaient pas directement le tayammum. Ils faisaient le rousl ou bien les ablutions autant qu'ils peuvent. C'est-à-dire si par exemple le plâtre il prend ça, eh ben, il lave tout le reste. Mais pour le plâtre, eh ben, il l'essuie, tout simplement. Ensuite il dit وكذلك يجوز المسح على الإمامة وهي ما يعمم به الرأس ويكون ويكور عليه. Aussi, donc deuxième point de la question, il est permis d'essuyer le turban. Bon, ici ça ne nous concerne pas, mais il faut connaître cette sunna, c'est-à-dire qu'il est permis d'essuyer les turbans, et le turban, l'imama, c'est ce qu'on entoure autour de la tête. ويكور عليه, c'est-à-dire tout ce qu'on enroule autour de la tête. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين. Donc la preuve c'est le hadith qui est dans Sahih Muslim où Al-Mughira il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم a essuyé son turban et sa nasiya. Nasiya, on avait expliqué, c'est le devant des cheveux, c'est-à-dire ici là au-dessus du front, et ses chaussettes. Ça c'est dans Sahih Muslim. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار يعني الإمامة. Et un autre hadith ou un autre compagnon il dit que, qui est aussi dans Sahih Muslim, que le prophète صلى الله عليه وسلم il a essuyé ses chaussettes et son khimar. Et le khimar ils appelaient, en fait l'imama ils l'appelaient khimar. Donc certains ulama ils ont dit, ça c'est moi qui vous le rajoute, que en vérité, puisque le Mughira il a bien dit il a essuyé son turban et sa nasiya, donc ils ont dit en vérité s'il essuie son turban il faut absolument qu'il essuie une partie de sa tête. D'autres ulama ils disent non. Ce qu'il a voulu dire le Mughira, c'est qu'une fois il a essuyé sa turban, et une autre fois il a essuyé que Nasiya. C'est-à-dire il raconte plusieurs fois. Et il y a des versions du hadith qui montrent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a essuyé que son turban, sans essuyer une partie de sa tête. Donc c'est pour ça que je vous disais, le fait d'essuyer, en général, c'est quelque chose de léger. À tel point que si on a quelque chose sur la tête, on peut l'essuyer à la place des cheveux. Enfin, en tout cas, le turban, je veux dire. Après, il y a aussi, il faut savoir qu'il a été rapporté d'Anas ibn Malik et un autre parmi les compagnons, deux. Donc, si vous voulez, Inch'Allah, j'ai oublié de vous le ramener, l'Athar. Ils essuyaient sur ce qu'on appelle al-Qalansuwa, c'est-à-dire comme on dit nous, Shashiya ou les trucs comme ça. C'est-à-dire ceux avec quoi ils recouvraient, ils posaient sur leur tête. Certains compagnons, ils essuyaient dessus au lieu de l'enlever. Ensuite, il dit au hadith والمسح عليها ليس له وقت محدد ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسح إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا. Il dit et le fait d'essuyer le turban n'a pas de temps précis et on n'est pas obligé de l'avoir mis en ayant les ablutions. Il dit mais si la personne elle le fait comme pour les chaussettes, c'est plus sûr pour sa religion. C'est-à-dire au cas où le jugement auprès d'Allah, ça serait ça. Mais sinon, les hadiths en rien, ils montrent ça. Les hadiths, ils disent simplement qu'on peut essuyer le turban sans période et sans l'avoir mis forcément en état d'ablution. Amma khimarul mar'ati wa huwa ma tughatti bihi ra'saha fal'aula an tamsah 'alayhi. Fal'aula an tamsah 'alayhi. Il dit en ce qui concerne le khimar, et c'est ce par quoi la femme se recouvre la tête. Donc le khimar, c'est-à-dire le hijab de la femme, il est composé en trois en fait. Et al-khimar, donc c'est-à-dire en fait c'est le foulard, ce qu'on appelle maintenant le foulard. Et que les gens ils pensent que c'est le hijab, mais c'est pas seulement ça le hijab. C'est-à-dire le khimar, c'est ce qu'elle met sur sa tête et elle cache son cou avec. Donc ça cache ses cheveux, sa tête, son cou, ses oreilles. Après elle doit mettre le qamis, ou la abaya, on appelle ça comme on veut, c'est-à-dire ce qui va couvrir son corps. Et au-dessus de ça, elle rajoute le jilbab, qu'Allah il a cité dans le Coran. Quand il a dit liudnin alayhinna min jalabibihin, qu'elles mettent sur elles leur jilbab. Jilbab, donc c'est le voile qui va se mettre en plus du khimar, qui va recouvrir vraiment la femme. Donc c'est un grand voile ample. Donc le khimar, c'est ça, c'est le foulard. Et la femme, quand elle est devant Allah chez elle et qu'elle veut prier, qu'est-ce qui lui est obligé? Est-ce qu'elle doit mettre le jilbab? Non, elle peut mettre simplement son qamis et son khimar. Elle doit cacher sa awara dans le sens de vraiment de cacher, c'est-à-dire même si la forme du bras elle est là, la forme de l'épaule, entre elle et Allah pour la prière, ça c'est pas, ça sert à rien. Mais ce qui est demandé, c'est de cacher ça devant les hommes dehors. Donc c'est ça qu'on appelle le khimar. Donc il dit en ce qui concerne le fait d'essuyer le khimar, le mieux c'est de ne pas le faire. Illa idha kana hunaka mashaqqatun fi naz'ihi aw li maradin fi ar-ra'si aw nahwi dhalik. Sauf s'il y a une difficulté dans le fait de l'enlever, comme par exemple si la femme elle est devant des gens ou dehors, ou alors pour une maladie à la tête. Wa law kana ar-ra'su mulabbadan bi hanna aw ghayrihi fayajuzu al-mashu alayhi. Et même si la tête elle est déjà recouverte par exemple de henna ou d'une huile ou quoi, elle peut quand même essuyer dessus. L'ifi'ani nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent conformément à l'acte du prophète. Donc je vois pas ce qu'ils veulent dire ici conformément à l'acte du prophète. C'est-à-dire moi j'aurais plus compris. En tout cas ce que je connais, en fait ça a été rapporté de Umm Salama, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi elle essuyait sur son khimar. C'est-à-dire au lieu de l'enlever, comme le prophète il essuyait sur son turban, elle est essuyée sur son khimar. Donc forcément on en tire une permission puisque premièrement c'est la femme du prophète, donc elle a appris avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout aucune autre femme ni sahabi ne l'a contredit. Donc c'est-à-dire que les compagnons ils l'ont accepté, donc c'est comme un consensus. Et ils disent comme je vous ai dit, de façon générale, le fait de purifier la tête, c'est assez facile, c'est quelque chose de facilité à cette communauté. C'est-à-dire, facilité à tel point que, même si tu as quelque chose sur la tête, au lieu de l'enlever, tu peux l'essuyer. La femme, elle peut essuyer son khimar. Et aussi, pour une grande partie des ulama, il suffit même d'essuyer une partie de la tête, tu n'es pas obligé de tout essuyer. Donc, c'est quelque chose de léger. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah, parce que c'est déjà beaucoup à retenir. Et on demande à Allah donc qu'il nous donne le fiqh dans la religion, c'est-à-dire la compréhension de la religion. Amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.